Métaphysique, Père Philippe, 15 décembre 1982, Rimont.
Je réponds tout de suite aux questions, et puis après nous verrons ce que j'ai hier vu à Fribourg. Voyez, on est au même rythme que Fribourg, c'est pas bien. Hier à Fribourg, on a fait relation, qualité, quantité. Rapidement, en quatre cours. Je le ferai aussi rapidement ici, mais pas tout à fait de la même façon, peut-être avec un peu plus de rythme, qui n'est pas le même qu'à Fribourg. Quelle différence y a-t-il entre la forme prise par rapport à la matière et la forme prise par rapport à l'ousia? C'est le gros problème que nous allons voir maintenant, donc je ne le traite pas. C'est bien situé ça, vous voyez, parce que la forme que nous allons voir par rapport à l'ousia, c'est au niveau proprement métaphysique. Vous voyez, c'est ce que j'allais dire tout de suite, c'est très bien que ce soit posé comme ça, c'est ce que j'allais dire tout de suite. Ordinairement, on distingue ousia et accident. On dit la première division de ce qui est en tant qu'être, sous la lumière de l'être, en tant qu'être, c'est ousia et accident. En réalité, on devrait dire ousia et détermination seconde. C'est-à-dire les formes diverses. Donc c'est bien la forme relativement à l'ousia. La forme relativement à l'ousia, on l'appellera avant tout Eidos. La forme relativement à la matière, on l'appellera Morphée. C'est ça qu'Aristote dit toujours Eidos et Morphée. Alors Eidos peut s'entendre dans le sens platonicien, l'intelligibilité, mais Eidos peut s'entendre aussi comme la détermination dans l'ordre de l'être. Donc, voyez, ici, ce que nous allons étudier, relation, qualité, quantité, ce sont des déterminations secondes, comparativement à l'ousia. L'ousia est source. Elle est source, l'ousia. La forme n'est pas nécessairement source dans l'ordre de l'être. Elle détermine. Elle est telle forme, vous voyez, vous avez tout de suite telle forme. Tandis que là, vous êtes source de tout ce qui est. Alors, ces déterminations secondes, ces formes secondes, on va les étudier par rapport à l'être. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'être? Qu'est-ce qu'elle est par rapport à l'être? La forme par rapport à l'être est une détermination secondaire. Voilà ce que je dirais tout simplement. C'est une détermination. C'est une manière seconde d'être. La manière fondamentale d'exister, c'est l'ousia. La source de votre être, c'est l'ousia. La source, hein. La source propre de votre être. Pas la source principale et première, puisque c'est Dieu. C'est le gros problème qu'on verra ensuite, qu'on ne voit pas tout de suite. Comment une substance peut-elle être créée? Parce que quand je dis créer, je dis relatif à, et quand je dis substance, je dis autonome. Or, ce qui est autonome n'est pas relatif à, donc il y a une contradiction entre les deux. Vous voyez, comment vous pouvez très bien mettre une contradiction entre le point de vue de l'ousia? Ça a été le gros problème de Spinoza. C'était le problème de Spinoza. Ça existait, ces problèmes. Et on comprend très bien que ça existait. Ça a été le problème de Malebranche. D'une autre manière, juste diamétralement opposé, deux positions inverses. Malebranche dit... Mais il ne peut pas y avoir d'ousia, de substance créée, pas possible. Il ne peut pas y avoir de cause créée. Il ne peut y avoir qu'une seule cause principale, tout le reste est relatif. Alors vous tombez dans l'ontologisme, ou vous tombez dans le panthéisme. Vous voyez, Spinoza-Malebranche, c'est intéressant à voir comme position. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais pour certains, ça dit quand même quelque chose. Quand je dis un nom, je le dis. Parce que Spinoza et Malebranche correspondent à deux positions extrêmes du côté de l'ousia face à Dieu. Vous voyez, parce qu'il y a toujours, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est là la difficulté que nous avons. Hein. C'est là la souplesse de l'intelligence. C'est que l'intelligence, elle pense à des niveaux différents. Elle ne pense pas toujours de la même façon. Elle pense à des niveaux différents. Alors nous pensons cela au niveau de l'analyse métaphysique. Mais au-delà de l'analyse métaphysique, il y a le Créateur. Et le Créateur fait encore partie de notre philosophie. Et le Créateur fait qu'il y ait une relation à l'égard du Créateur. L'ousia est relative au créateur. L'ousia, c'est-à-dire l'être créé, en réalité, c'est pas l'ousia. C'est là la confusion. L'ousia est prise comme principe. Et la création se termine toujours à l'étant. L'étant qui existe. Donc, implique le pose. Tandis que l'ousia, c'est le tiesti. C'est un principe. Un principe n'est pas créé. Il est concret. Mais il n'est pas créé. Qu'est-ce qui est créé? C'est une réalité concrète. Dieu crée une âme existant dans un corps. Il ne crée jamais un principe. C'est mon intelligence qui saisit le principe. Parce qu'elle saisit sous un mode abstrait. Ça, c'est très important de comprendre. Alors, vous voyez, c'est les confusions qu'on fait, c'est la confusion de Malebranche et la confusion de Spinoza. C'est intéressant parce que c'est la confusion entre le tiesti et le pose. Je crois qu'on peut dire que toutes les confusions philosophiques qui sont faites, c'est entre le tiesti et le pose. Alors, ou vous ramenez le tiesti au pose, ou vous ramenez le pose au tiesti. C'est aussi grave. C'est pour ça que j'insiste là-dessus et que je reviens tout le temps sur le tiesti et le pose. Parce que ça, ça vous oblige, ça secoue votre intelligence, même si vous ne comprenez rien du tout. Au début, au bout d'un certain temps, vous comprendrez, n'est-ce pas, qu'est-ce que c'est que la différence entre le tiesti qui aboutit au principe et puis le point de vue du pose qui est le comment. La petite Vierge Marie a posé le comment. Quomodo, comment. Elle était intelligente, vous voyez. Alors elle posait le comment de la prudence. Mais au point de vue de la foi, elle y adhérait puisque la foi nous donne le tiesti. C'est ça qui est admirable, du reste. Et c'est là où on voit les clés de l'écriture, vous savez. L'écriture est plus intelligente qu'on ne pense, hein, parce que ça vient de Dieu, et Dieu est plus intelligent que nous. Et donc l'écriture contient éminemment une métaphysique. Et toutes les distinctions, vous les faites, vous les trouvez dans l'écriture. Toutes, toutes, absolument toutes. Et c'est ça qu'on ne regarde pas habituellement. Parce qu'on se dit, oh non, l'écriture c'est fait pour les gosses, hein, non, 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 et pour les exégètes, elle est faite pour les êtres intelligents, elle est faite pour la contemplation. Alors vous regardez l'écriture uniquement au niveau du pose, c'est vrai, l'exégète ne regarde l'écriture qu'au niveau du pose, et l'enfant ne regarde qu'au niveau du tiesti, et l'homme intelligent et le théologien regarde le pose et le tiesti. C'est des petites choses qu'il faut saisir. Bon, alors, au niveau du... Vous voyez, les trois niveaux. Je vous dis ça parce que je crois que c'est très important. Et puis vous avez le « ce qui devient ». Ce qui est mu. Bon, la distinction de ce qui devient et ce qui est mu, nous l'avons vu, « fusis matière »,« fusis forme ». Voilà la première division. Or, la « fusis forme » est relative à la matière, c'est la morphée. La morphée, la forme qui informe. C'est pour ça que la forme qui informe la matière, qui détermine la matière. Vous avez donc ce regard de la morphée relativement à la matière dans la lumière de ce qui est vu. Vous avez la forme relativement à l'ousia dans la lumière de ce qui est. Et vous pouvez encore avoir un troisième regard sur la forme dans la lumière du Créateur. Vous avez donc les trois lumières successives. 1, 2, 3. Je pourrais en ajouter une quatrième. Dans la lumière du vivant. Alors la forme, c'est l'âme. Oui, c'est l'âme qui informe. Et en même temps, l'âme, elle est substance. Donc elle est ce qui est. C'est pour ça que la vie fait une petite synthèse en ce qui est lu et ce qui est. Vous avez l'âme. Le vivant. Le vivant, il implique le point de vue du corps et de l'âme. L'âme, elle est forme, elle est ousia, elle est posiforme. Oui, elle est les deux. Il y a un lien. Ça, le propre du vivant, c'est ça qui est très difficile dans le vivant. Parce que de fait, je peux regarder, ramener le vivant à ce qui est mu, Oui, l'attitude les réductionnistes, hein, ils ramènent le vivant à ce qui est nu. Mais on ne peut pas, le vivant a quelque chose d'autre, il a quelque chose de plus, et c'est justement la métaphysique qui empêche la réduction, le réductionnisme, qui empêche, qui nous oblige de regarder autre chose. Et puis, la vision dernière, le point de vue du Créateur. Alors, ce serait vision 4 et vision 3 ici. Vous voyez, c'est pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas avoir une vue univoque de la forme. Avoir une vue univoque de la forme, ce serait la regarder uniquement phusis forme. Il faut avoir une vision analogique de la forme. Et la vision analogique de la forme, c'est de comprendre justement que la forme, elle se situe d'abord ici. On pourrait dire d'abord à l'égard de l'œuvre d'art, puis à l'égard spéculatif. Ça, c'est le point de vue spéculatif. Et j'ai encore une conception de la forme au niveau pratique. Et c'est ça la difficulté du point de vue philosophique, c'est que je ne peux pas faire la philosophie sans qu'il y ait des plans différents tout de suite, immédiatement. C'est pour ça que d'une certaine manière, chaque analyse que vous faites présuppose le tout. Alors vous êtes perdu au début, hein, j'y comprends rien du tout. Maintenant, vous n'y comprenez rien. C'est trop intelligent que vous avez. Alors acceptez que c'est trop intelligent. Et accepter que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau, et que vous y arrivez cependant, parce qu'au fond, il y a quelque chose qu'on saisit, on saisit toujours quelque chose. Alors, vous avez une vision de la forme au niveau de ce qui est nu, au niveau de la forme au niveau de ce qui est, au niveau de la forme du vivant, et puis dans la vision de sagesse. J'espère que ça, vous arriverez à comprendre petit à petit. L'être apparaît à nous dans sa complexité et donc donne la possibilité d'établir une science du simple à partir de l'être. À partir de l'être, legetai polakos. L'être en tant qu'être est simple. Comment peut-on alors chercher un plus simple que lui ? Puisqu'il n'y a pas de cause de simplicité. Ça, c'est très bien, vous voyez. Vous voyez la différence entre le tiesti et le pos. Voilà la différence, la réponse. Et la question confond les deux. Il y a une simplicité de l'être au niveau du principe. Il y a une simplicité de l'être au niveau du pos. Dieu est simple dans sa manière d'exister. Et il n'y a que Dieu qui est simple dans sa manière d'exister. Mais l'être est simple en lui-même dans l'analyse que j'entends. Donc il y a une simplicité au niveau de l'analyse et il y a une simplicité au niveau de l'existence. Et ce n'est pas la même simplicité. Mais je peux parler de la simplicité de l'existence parce qu'il y a une simplicité au niveau de l'analyse. Autrement dit, si je ne saisissais pas ce que c'est qu'un principe, je ne pourrais pas parler de la simplicité absolue. J'espère que vous comprenez là ce que je veux dire. Je le fais de façon abrupte, exprès, pour que vous vous éveilliez. Alors, c'est pour ça, je le fais de façon abrupte. L'être est simple dans la saisie des principes. Un principe est absolument indivisible, donc il est simple. L'ousia, par elle-même, est simple. Elle est indivisible, elle est un principe. Tout principe est simple. Toute réalité dans son pot, dans sa manière d'exister, est complexe. Et vous êtes la réalité la plus complexe qui soit. Voilà votre richesse et votre originalité. C'est la complexité. C'est pas la simplicité, c'est la complexité. Alors vous voyez, quand on met 50 êtres complexes ensemble, vous voyez ce que ça peut faire. Hein, ça peut faire un panier de crabe. Parce que c'est la complexité multiple qui s'enchevêtre. Et c'est vrai que c'est extrêmement complexe. Un être complexe, il a déjà assez de peine dans sa complexité. Quand vous lui ajoutez d'autres complexités à côté, ben c'est pas comme ça. Hein. Or, nous sommes l'être le plus complexe qui soit. Hein. Théard, quand il a dit ça, n'a rien inventé. C'était dit avant lui. Aristote l'avait dit. Aristote avait dit que l'être humain est l'être le plus complexe qui soit. C'est pour cela, du reste, qu'ajoute Aristote, l'être humain a de la peine à trouver sa finalité, à cause de sa complexité. Dieu est simple, non pas comme un principe, mais comme un être qui existe. C'est sa manière d'exister. La simplicité de Dieu, c'est la manière d'être. Ce n'est pas donc la même simplicité que la simplicité d'un principe. Dieu n'est pas saisi comme un principe, heureusement. Dieu est saisi comme une personne, comme une réalité existante. Et la personne n'est pas un principe, c'est une manière d'exister. Et donc Dieu est simple dans sa manière d'exister. Donc vous voyez comment il faut essayer de comprendre. Et c'est la distinction du tiestier du Pauls. Pouvez-vous, s'il vous plaît, étudier le problème de la réalisation concrète de la substance? Où y a-t-il substance individuelle? Oui, je ne l'ai pas étudié, j'étais très vite là-dessus, parce qu'on ne peut pas tout voir, mais c'est très bien de poser la question. Par exemple, un chat a une autonomie dans l'ordre de la vie, mais quelle autonomie a-t-il dans l'ordre de l'être? Il a une certaine autonomie dans la mesure même où il est un vivant, alors il a une certaine autonomie dans l'ordre de l'être. Et cette autonomie, elle est limitée, puisque le chat ne peut exister que dans un certain milieu dans lequel le chat puisse apparaître. Projeter le chat sur la lune, il va mourir, et il n'y aura plus de chat. Donc, en dehors d'un milieu donné, le chat n'existe pas. C'est bien évident. Et en dehors de ce milieu, le chat n'existe pas. Donc, il est limité dans son autonomie. C'est la même chose pour l'être humain. Mais l'être humain a beaucoup plus d'adaptation que le chat. Parce qu'il est intelligent, et donc il peut réfléchir davantage sur son autonomie. Et alors il est beaucoup plus indépendant du milieu dans lequel il est. Et plus notre intelligence se développe, plus nous sommes indépendants du milieu dans lequel nous sommes. Et plus nous réalisons un milieu autour de nous, dans l'indépendance même de notre esprit. Mais nous restons encore des êtres fragiles qui avons besoin d'un milieu. Et tous nous avons besoin d'un milieu. Et si nous sommes très sensibles et très artistes, on est plus dépendant du milieu. L'artiste est très dépendant du milieu. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autonomie. Il a une autonomie, mais en même temps, à cause de sa sensibilité, il est dépendant du milieu. Donc, il y a toujours les deux. Nous ne sommes pas totalement autonomes, mais nous avons une certaine autonomie. Alors, c'est très difficile de graduer cette autonomie. Et ça, c'est la manière d'exister de la substance. La manière d'exister de la substance, c'est d'exister comme une substance individuelle. Donc la manière d'exister d'une substance, c'est d'impliquer le point de vue de la matière et le point de vue de la quantité. Alors, je n'ai pas parlé de la substance individuelle parce que je compte en parler au moment de la quantité. Alors, et que dire du monde inanimé? Le micro devant lequel vous parlez a-t-il lui aussi une substance individuelle? Je lui demande, il ne répond pas, vous voyez. Sinon, à quelle substance se rattache-t-il? Il se rattache à un être artificiel. C'est un outil. C'est un outil. C'est pour ça que je ne parle pas au micro. Je m'en sers. Il y a des gens qui sont tellement habitués à parler au micro qu'ils oublient qu'ils parlent des hommes par derrière. Et ils parlent au micro. Et ça se voit tout de suite. C'est tellement désagréable de parler à un micro quand il n'y a personne, vous voyez ? Mais c'est vrai. Parce qu'on ne parle pas à un micro. On parle à des personnes. C'est tout à fait autre chose. Le micro, on s'en sert. Un instrument. C'est un outil, le micro. Un outil n'a pas de substance. Il n'a pas de substance propre. Sa substance, c'est la matière dans laquelle cet outil est fait. Donc c'est une substance tout à fait matérielle. Hein. Tout à fait matérielle. C'est pas autre chose. Et la forme du micro, c'est son utilisation. C'est qu'il permet tel usage. Donc pas de substance dans les choses artificielles. Pas de substance propre. Une substance matérielle. La substance, c'est pour les vivants. La substance, c'est pour la personne humaine. La substance, c'est d'une certaine manière pour le monde naturel, la phusis, qui est substance. Mais alors, c'est très difficile de savoir quelle est la substance individuelle du monde physique. Est-ce que vous avez une substance dans un caillou? Ou est-ce que vous avez une substance dans une montagne? Est-ce que vous avez une substance dans l'eau? On parle des éléments. C'est vrai, on parle des éléments. Il y a des éléments, mais on ne dit pas des substances. Pour bien montrer l'aspect fondamental, élémentaire, de ce que représentent les éléments. Mais ce n'est pas des substances. Ben, je crois qu'on pourrait dire qu'il y a une certaine substance du monde physique, qu'il y a des substances du monde animal, mais que dans le monde physique, inanimé, c'est un tout. C'est un tout. La substance apparaît comme un tout. Et c'est vrai que la substance du monde physique représente un certain tout complexe, harmonieux dans sa complexité. Et que si je commence à l'abîmer trop, je ne sais pas du tout quelles seront ses réactions. C'est ce qu'on est en train de faire, il faut bien le reconnaître. Hein. Nous abîmons notre monde physique, nous l'abîmons, je dis bien. Nous coopérons pas toujours, mais nous l'abîmons et nous ne savons pas ce que sera la ruade de l'âne. Ça, j'en sais rien du tout. Parce que quand l'âne est bête, qu'il est bête congénitilement dans le monde physique, puisqu'il n'y a pas de vie, alors on ne sait pas quelles seront les ruades. Nous ne savons absolument pas quelles sont les réactions du monde physique. Les réactions du monde physique peuvent être très très lentes et avoir des réactions longtemps après. On ne peut pas le savoir, ça. Oui.
Est-ce qu'au niveau du vivant, on peut considérer une substance indépendamment des espèces?
C'est très difficile, là encore, c'est une substance analogique, vous voyez, puisque c'est un principe, une substance. Tout principe est saisi de façon analogique. Donc analogiquement, on peut dire qu'il y a une certaine substance, mais on peut dire aussi que la substance animale n'existe vraiment dans son autonomie qu'au niveau de l'espèce, puisque la survie de l'espèce finalise la substance. Donc la substance est touchant le point de vue de la fin, on peut dire ça. Que d'une certaine manière, vous voyez, il y a le tout, il y a l'espèce animale et il y a la personne humaine. Alors je crois qu'on pourrait très bien dire ça. La substance du monde physique, c'est un tout. Le monde physique n'a de substance qu'au niveau du tout. Le tout naturel. Le cosmos. Parce qu'il m'est donné. Il m'est donné. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une substance eau, qu'il y a une substance feu. Il y a des éléments qui forment un tout et qui sont liés les uns aux autres. Et donc il y a un tout qui est ce cosmos, qui a un tout et qui a une unité. Donc la complexité de ce monde cosmos. Il y a au niveau animal, on peut dire que l'animal a une autonomie beaucoup plus profonde, et ça on voit très bien. Ça. Physiquement aujourd'hui, on reconnaît le phénomène différent du monde physique, du monde du vivant. Ce n'est pas les mêmes lois profondes qui régissent le monde physique et le monde du vivant. Il y a, dès que le vivant apparaît, quelque chose d'autre, irréductible, au monde physique. Donc cet irréductible m'apparaît dans cette autonomie du vivant. Et cette autonomie du vivant, elle existe au niveau de chaque espèce de vivant. Alors je dirais, à l'intérieur de ce tout, toutes les espèces de vivant me représentent une certaine autonomie et donc une certaine substance. Et puis il y a l'homme. L'homme, grâce à son esprit, est finalisé par chaque individu. Vous voyez, la revendication de l'individu n'existe métaphysiquement qu'au niveau de l'homme. Ça, c'est une belle formule métaphysique. Hein. Alors, la revendication de l'individu n'existe métaphysiquement qu'au niveau de l'homme. Seul l'homme est capable de revendiquer comme individu. L'animal ne revendique pas comme individu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de syndicat. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de syndicat au niveau de l'animal, ça. Sauf dans l'arche de Noé. Alors vous avez le syndicat des animaux. Là. Alors l'arche de Noé représente la revendication de toutes les espèces pour survivre au déluge. C'est un symbolisme merveilleux du syndicat au niveau des animaux. Normalement, les syndicats, c'est pour la survie de l'individu. Il s'agit de vivre. Alors, la revendication de l'individu. Mais l'individu n'existe au sens fort qu'au niveau de l'homme. Parce qu'au niveau de l'animal, l'individu est dépassé par l'espèce. Et donc on peut dire que la substance n'existe qu'au niveau de l'espèce. Tandis qu'au niveau de l'homme, là, il y a vraiment une nousia. Une nousia individuelle. Une autonomie individuelle. Ce qui fonde les syndicats, vous voyez. C'est là. Métaphysiquement, hein, c'est le point de vue dernier. Vous revendiquez au point de vue de l'individu, la survie de l'individu. La survie de l'individu qui doit exister pleinement au niveau donc, de cette ousia individuelle. Et c'est l'esprit qui permet de comprendre ça. Seul l'esprit, c'est extraordinaire de voir ça. C'est beau du reste, hein, d'avoir ces trois aspects, ces trois niveaux, si vous voulez, d'autonomie. L'autonomie du tout, l'autonomie de l'espèce, l'autonomie de l'individu. C'est une manière de regarder les trois niveaux de la substance. Oui. Donc, nous reviendrons sur le problème de l'individuation à propos de la quantité. Alors, ce problème, n'est-ce pas du seul ressort de la philosophie première, mais aussi celui de la philosophie de la nature ? Ce problème, c'est-à-dire le problème de la substance individuelle. Certes, mais en l'absence de cours de philosophie de la nature, il faut bien le poser au cours de la philosophie première. Au sens strict, le problème de l'individu, c'est le problème du pos de l'ousia. C'est pas le problème de la phusis. Donc c'est bien le problème de la philosophie première. Je suis tout à fait d'accord. C'est le pos de l'ousia. Au niveau, voyez, au niveau de la philosophie première, au niveau de la philosophie de la nature, la distinction entre le tiesti et le pos sont beaucoup moins nettes. Pourquoi ? Parce que la matière est co-principe. Et en fond, c'est ça. La matière étant co-principe du monde physique, d'une certaine manière, le pos devient tiesti. C'est pour ça que la distinction du tiesti et du pos ne se comprend parfaitement qu'au niveau métaphysique. C'est là où on entre dans le point de vue proprement métaphysique. Tandis qu'au niveau purement physique, étant donné que la matière est éco-principe, la matière individualise la forme. Et donc la forme n'existe jamais sans l'individu. Donc, c'est au niveau des principes même que je trouve le problème de l'individuation. Donc, il n'y a pas de problème de l'individuation, au sens strict. Il y a le problème du tout. La philosophie du tout, c'est une philosophie de la nature. Ce qui fait comprendre, voyez, comment la philosophie, quand elle veut se distinguer de la science, aborde le problème de philosophie par le tout. Et jamais par la substance. Ce qui montre bien qu'on reste à un niveau de philosophie de la nature. Et c'est vrai, au niveau de la philosophie de la nature, la philosophie, c'est un tout. Comparativement à la physique contemporaine. Alors, la métaphysique s'intéresse en premier lieu au tiesti, le pos pour lui est secondaire. Tout à fait d'accord. Il est secondaire, mais essentiel. Hein. D'accord, mais ce n'est pas une raison pour délaisser une question légitime qui se pose à l'intelligence. Tout à fait d'accord. Y répondre contribuerait peut-être à faciliter la digestion de la substance par le monde contemporain. Non. La digestion ne se fait pas par le pos. Métaphysiquement, si vous ne saisissez pas le tiesti, vous confondrez en regardant le point de vue du pos. Et vous n'aboutirez à rien du tout. Il faut accepter la verticale. Et la verticale, c'est saisir le tiesti. C'est pour ça que j'insiste tellement sur le tiesti. Vous voyez ? Parce que si vous regardez uniquement le pose, vous allez tout le temps venir à la physique. Et vous ne saisirez jamais la métaphysique. Vous ne saisirez jamais la philosophie première. Il y a un effort d'induction qui est absolument nécessaire. Une fois que vous avez fait cet effort d'induction, vous pouvez alors comprendre ce que c'est que la substance individuelle. Ça, faut être sûr qu'il n'y a pas moyen autrement. Il n'y a pas moyen autrement. C'est abrupt, la philosophie première. C'est très abrupt. Et il faut accepter que ce soit abrupt. Parce que si vous n'entrez pas dans ce caractère très abrupt, vous ne saisirez jamais le tiesti. Et ce n'est pas par le pose que vous saisirez le tiesti. Ça, j'en suis désolé, mais c'est comme ça. Vous ne pouvez saisir le tiesti que par mode d'induction. C'est l'induction qui nous permet seule de saisir le principe. Et tant qu'on n'a pas saisi le principe, on n'entre pas en philosophie première. Si vous regardez que le pose, le comment, c'est-à-dire la substance individuelle, vous aurez un très grand danger de confondre la philosophie première et la philosophie de la nature. Confusions qui se font constamment, hein. Il faut bien se le dire. Ça, je suis tout à fait d'accord. J'essaie de découvrir avec vous ce que c'est que la philosophie première. Je sais que c'est très difficile. Je le sais. Je sais que c'est très abrupt. C'est évident. Mais j'aime mieux dire la vérité que de dire des choses qui seraient de l'ordre rhétorique. Oui. Qui alors, au bout d'un certain temps, cacherait le caractère abrupt de la métaphysique. Le caractère abrupt de la métaphysique, c'est évident, c'est très abrupt. Philosophie première. Le monde contemporain n'a qu'un seul désir, c'est d'assister à l'enterrement de première classe de la philosophie première. Alors, si on assiste à l'enterrement de première classe de la philosophie première, je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de pleureuses. Et alors, il vaut mieux, à ce moment-là, ne pas faire de métaphysique que faire une mauvaise métaphysique. J'aime mieux. Mais je crois qu'il faut comprendre que la philosophie première, c'est le tiesti de l'ordre de l'être. C'est la saisie de la substance, l'ousia. Une fois que j'ai saisi l'ousia, je peux regarder le pose de l'ousia. Mais pour regarder vraiment le pose de l'ousia, il faut comprendre les déterminations secondes. Donc, comprendre la qualité, la quantité, la relation. En vue de comprendre le pose. Vous voyez, dans le livre sur l'être, j'ai vu tout de suite après l'ousia, le pose. Je crois que si je referai le livre maintenant, je mettrai le pose après. Et pas tout de suite. Parce que je suis obligé de faire appel à la quantité, à la qualité, à la relation. Et de sorte que je mettrai le pose après. Parce que je peux très bien, c'est dans la mesure où je saisis, je peux très bien, ayant saisi l'ousia comme principe de ce qui est, je peux très bien saisir ces déterminations secondes. Je peux les saisir tout de suite après. Je n'ai pas besoin de saisir la substance individuelle. Je saisis la substance individuelle quand je verrai la relation qui existe entre l'ousia et ses déterminations secondes. La manière dont l'ousia les intègre. C'est tout ce problème-là. Mais je peux aussi regarder tout de suite le pose, immédiatement après, parce que la philosophie première présuppose la philosophie de la nature, présuppose d'une certaine manière la philosophie du vivant, donc je pourrais tout de suite poser la question du pose pour comprendre la substance individuelle. Vous savez, c'est là où on peut discuter sans s'étendre sur l'ordre des questions. Parce qu'au point de vue métaphysique, c'est un petit peu, vous savez, la déesse dit à Parménide, ne t'occupe pas trop de l'ordre sur lequel on va voir ces questions. La déesse dit ça. Et la déesse peut le dire. Hein, parce qu'au niveau métaphysique, il ne faut pas trop s'inquiéter. De fait, il y a des problèmes différents. Mais lors de ces problèmes, on pourra discuter sans s'étendre. Alors, ce n'est pas la peine de discuter. Bon. Le corps vivant a une source d'intelligibilité qui est son âme, c'est sûr. Le corps du mort, lui, n'a plus d'âme. C'est pour ça que c'est un corps équivoque, ce que dit Aristote. C'est un corps équivoque. Ce n'est plus le corps de pierre, c'est le cadavre. Et le cadavre n'est plus le corps de pierre. Je respecte le cadavre parce qu'il a été le corps de pierre. Et le cadavre comme tel n'est pas le corps de pierre. Et donc le cadavre est équivoquement le corps de pierre. C'est rude, au point de vue du deuil. C'est rude, mais c'est philosophique. musical. Alors il faut évidemment ne pas prendre le langage philosophique quand vous êtes en face du cadavre. C'est bien évident, alors soyez respectueux. Mais il faut philosophiquement appeler les choses par leur nom. Mais on sait qu'il y a la rhétorique. Le corps du mort, lui, n'a plus d'âme, mais il conserve une intelligibilité. Non. Il n'a plus d'intelligibilité. C'est terrible, c'est comme ça. C'est le cadavre. Et le cadavre n'a plus d'intelligibilité. Il a une intelligibilité qui est tout autre, qui est une intelligibilité de multiplicité. Et c'est pour ça que le cadavre se corrompt. C'est pour ça qu'on ne peut pas attendre trop longtemps. Et qu'on veut le momifier. Alors vous lui donnez une forme artificielle. Mais ce n'est plus le corps de pierre. C'est un cadavre momifié. C'est un cadavre momifié à une forme artificielle, c'est plus une forme vivante. C'est l'art qui le maintient dans son unité artificielle. Et cette unité artificielle, c'est un corps momifié. Il faut être réaliste, hein, il faut appeler les choses par leur nom. Il y a donc plusieurs sources d'intelligibilité pour un corps. Une en tant qu'il est vivant, c'est l'âme. Et une en tant qu'il est mort, quelle est donc cette seconde source? L'art. Mais il n'a plus de forme intelligible, comme corps. Alors je peux étudier les dispositions, ce que je vous ai dit. Hein. Alors vous voyez, il y aurait trois sources d'intelligibilité, pas deux, trois sources d'intelligibilité. N'est-il pas déjà présente dans le corps vivant? Non, le cadavre n'est pas présent dans le corps vivant. Heureusement, je ne transporte pas avec moi un cadavre. Ce serait terrible, ça. Yam fait tête au bout de 4 jours. Hein. Alors, comme il y a plus de 4 jours, vous voyez ce que ce serait. N'est-il pas déjà présente dans le corps vivant en tant qu'il est un corps matériel, comme principe selon la forme de ce qui est matière non vivante? En réalité, le corps du mort... C'est cadavérique. En réalité, le corps du mort ne conserve pas tant... Bon, ne conserve pas tant que ça une vie, une intelligibilité. Il aurait plutôt tendance à la perdre. Oui, c'est ça, c'est plus ou moins rapidement. Pas tout à fait d'accord. Mais il y a quand même quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Puisque le corps ne disparaît pas immédiatement au moment de la mort. Oui, il se maintient. N'est-ce pas? Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, essayons de saisir cette question. Qui est plus la question de la philosophie du vivant que la question de la physique ici. Mais ça ne fait rien. Je le dis en quelques mots, vous allez tout de suite saisir. Je peux saisir, quand je fais la distinction du corps et de l'âme, comprenons cette distinction est d'ordre philosophique. Quand je regarde uniquement la description du corps vivant, ce que fait le biologiste, il essaie de comprendre le corps vivant. Et je ne fais pas la distinction du corps et de l'âme. Le biologiste comme tel, la science biologique, ne peut pas faire cette distinction. Donc, on décrit le corps vivant. On décrit la complexité de ce corps vivant. Qu'est-ce que je saisis quand je fais la science du corps vivant au niveau biologique? Qu'est-ce que je saisis dans la lumière philosophique? Qu'est-ce que je saisis? Je saisis les dispositions. Les dispositions... Ils sont toujours du côté de la matière. Les dispositions ont une intelligibilité. Ils ont une intelligibilité. Ils ont une intelligibilité qui vient d'où? De l'âme. Donc le biologiste, la science biologique, sans le savoir, étudie les manifestations de l'âme dans le corps vivant. Sans le savoir. Ils ne vont pas jusqu'à la source. C'est pour ça que je dis qu'ils ne regardent que les dispositions. La source, c'est l'âme. Alors, il touche le rayonnement de la source. Vous voyez? C'est vrai, un biologiste voit le rayonnement de la source. Il dit, ce terrain est humide, il doit y avoir une source. Ce terrain est vivant, il doit y avoir une source. Mais il n'étudie pas le point de vue de la source. Vous voyez? Il regarde uniquement les effets. Alors, il voit les dispositions. Il voit cette chose très étonnante, qu'il y a une organisation. Qu'il y a une autonomie. Donc, toute la politique de la vie, les différents aspects de la politique de la vie qu'on peut étudier en voyant toute cette intelligibilité qui existe dans un corps vivant, Un corps vivant a une intelligibilité prodigieuse. Il y a des choses extraordinaires. C'est une usine cathédrale de molécules, n'est-ce pas, comme on peut dire. Quand je vous vois marcher, c'est une belle cathédrale de molécules. Bon, ça, c'est une cathédrale de molécules, donc c'est très organisé, cette cathédrale de molécules. Mais ça, c'est les dispositions. Voilà ce que j'étudie. En réalité, la source demeure cachée. Et le philosophe montre la source. Quand la source disparaît, séparation de l'âme et du corps, la mort. Le corps reste pendant un certain temps le même, apparemment, mais plus du tout le même au point de vue vital. Et le biologiste le sait, il constate la mort. Il constate la mort. Il constate que l'organisation, l'autonomie du vivant n'est plus et qu'on est tout proche de l'anarchie, la plus grande qui soit. Ça part dans tous les sens. Donc, il n'y a plus de principe d'unité. C'est ça la mort. Source, elle s'est quittée de la source et donc on est devant l'anarchie, la multiplicité. Et si on attend, au bout d'un certain temps, on ne reconnaîtra plus rien du tout. Oui. C'est pour ça que le cadavre n'a pas d'intelligibilité. L'intelligibilité du corps vivant provient de l'âme et me permet d'avoir un certain sens, me permet une certaine science biologique. La science biologique ne se fait pas sur le cadavre. Je peux disséquer un cadavre, et je dois le conserver dans une certaine forme artificielle. Et grâce à cette forme artificielle, ce certain milieu dans lequel je garde le cadavre, je permets de faire des coupes. Mais si je le laissais à l'état naturel, je ne pourrais pas le travailler. Je le travaille grâce au milieu artificiel dans lequel je peux le travailler. Alors à ce moment-là, je peux le travailler. Mais vous voyez, je maintiens une certaine forme, une certaine unité artificielle. Je la maintiens artificiellement, pas naturellement. Je peux faire ça, je le sais, que c'est comme ça que ça se... On peut le savoir, donc on maintient pendant un certain temps, Évidemment, le milieu peut se faire, mais ce n'est pas le point de vue de l'intelligibilité qui provient de l'âme, là, c'est pareil. Donc j'ai maintenu une certaine unité artificielle. Alors vous voyez, c'est très vrai, ça serait très intéressant à voir au point de vue critique. Hein. La différence de l'intelligibilité du corps vivant par les dispositions... L'intelligibilité du corps mort, donc du cadavre, par un certain milieu artificiel, où je peux continuer d'étudier ces dispositions. Mais en réalité, ces dispositions ne sont plus des dispositions. Ce ne sont plus des dispositions vitales, puisque c'est les effets, alors je dirais les effets qui se maintiennent pendant un certain temps. Mais il n'y a plus d'unité vitale. Il n'y a plus d'intelligibilité propre qui vient de l'âme. Mais c'est simplement le fait qu'on maintient une certaine unité artificielle pendant un certain temps.